Sur plusieurs machines, ou au contraire concentré dans une seule, on s'en fiche, on parle de fonction. C'est pour ça ça qu'on parle de schéma fonctionnel. Donc en fait, si on reprend la définition du dessus, on a un certain nombre d'attaques qui exploitent un certain nombre de vulnérabilités, et l'exploitation de ces vulnérabilités est vue par un système de log ou un système de données, génère de l'information, on va parler de source logique. Cette information, en fait, sont des données brutes qui traduisent des activités sur la machine, activités qui sont soit intrusives, soit légales. Ces données brutes sont captées par un capteur, quelque chose du style de TCP/dump par exemple, et formatées sous la forme d'événements, une entrée quelconque, une sortie, une TCP/dump par exemple. Et ces événements sont analysés par un analyseur, la somme de ces deux fonctions capteur et analyseur étant généralement baptisée sonde. Une sonde de détection d'intrusion, c'est alors par exemple, ça va être fonctionnellement une boîte comme celle-ci, et elle va, par exemple dans le cas de Snort, à coup de pattern matching dans des paquets réseau, générer des alertes qui correspondent à un certain nombre de chaînes de caractères, ou de suites binaires particulières, qui ont été trouvées dans ces paquets réseau. Les alertes en question sont émises vers un manager, qui essaye d'en faire les choses les plus intelligentes possibles, sachant qu'aujourd'hui, un manager, ça fait peu de choses intelligentes finalement, généralement ça se contente de peindre en rouge ce qui est grave, en bleu ce qui est moins grave, et de mettre tout ça sous une forme HTML. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est insuffisant pour les clients. Alors, en quoi ce qu'on vient de dire présente des limites aujourd'hui? Alors déjà, avant de démarrer, je tiens à dire que c'est pas parce qu'on fait de la détection d'intrusion qu'on dit que la prévention n'est pas importante. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut d'abord faire de la prévention, bien évidemment. Mais manque de bol, il y a toujours des problèmes à la conception, à l'implémentation ou à l'administration des outils, de sécurité ou pas de sécurité d'ailleurs. Et ces problèmes résultent dans des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. Et donc, il faut bien essayer de détecter l'exploitation des dites vulnérabilités. Bon, donc finalement, je suis pas loin de penser que malheureusement, on est contraint de faire de la détection d'intrusion. Le domaine a été créé au tout début des années 80 par le fameux papier d'Anderson qui en fait introduisait l'approche comportementale qu'on va voir en dessous. Je pense qu'on peut dire que depuis, des progrès constants ont été faits. Je suis en train de vous dire il y a des problèmes dans les IBS, je suis en train de vous dire n'utilisez pas d'IBS, hein. C'est des gens qui développent Redux dans la salle. Moi je trouve ça très bien, Redux, non, ça je trouve ça très bien. Mon but c'est pas de critiquer ces outils-là, ils sont infiniment mieux que tout ce que j'ai été capable de faire ces dernières années. Donc c'est des outils super. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont insuffisants parce qu'en fait, ils génèrent trop d'alarmes. Donc, bon, donc l'administrateur sécurité est en fait noyé sous le flot d'alarmes et le diagnostic est associé à chacune de ces alarmes est très pauvre parce que les alarmes sont de très faibles granularités. Donc le problème auquel on s'attaque principalement, c'est celui-ci. Donc tout ce qui dirige finalement notre projet de recherche dans cette équipe, c'est essayer de proposer des méthodes où on va drastiquement diminuer le nombre d'alarmes. Alors si on essaie de regarder d'un peu plus près ce qui se cache derrière les termes trop d'alarmes, on retrouve des choses qui sont assez classiques, hein. Les deux grandes approches de détection qui sont l'approche comportementale et l'approche par scénario. Dans le premier cas, pour ceux qui ne connaissent pas, on définit une référence, soit par apprentissage, soit fixée a priori. Et puis ensuite, on observe les entités qui agissent, et s'ils agissent différemment, suffisamment différemment de la référence, soit apprise, soit définie de manière fixe, et on émet une alarme. Bon, dans ce cas-là, les systèmes, en anglais on parle d'anomaly detection, dans ce cas-là, les systèmes sont sensibles à des phénomènes qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs. Bon, c'est bien évident, hein. Dès lors qu'on a une référence, si le contexte dans lequel évoluent les entités qu'on surveille bouge, et bien finalement, la référence change en quelque sorte. Et donc si on n'est pas capable d'adapter la référence suffisamment vite, et bien on va penser qu'il y a des choses bouges qui sont en train de se passer, alors qu'en fait c'est une simple adaptation à la modification d'environnement qui a eu lieu. De la même manière, on voit bien que si le comportement intrusif est conforme à la référence, par exemple parce qu'on a appris une attaque, parce qu'on a défini une politique de sécurité, j'y viendrai tout à l'heure, et que bah, finalement l'attaque ne viole pas directement la politique de sécurité, bah, on ne va pas avoir émission d'alerte, alors qu'il y aurait dû y en avoir. C'est ce qu'on appelle un faux négatif. Bon, finalement, les IDS aujourd'hui font plutôt de l'approche par scénario, Bon, prendre par exemple le célèbre cas de Snort, et là aussi on va avoir des cas de faux positifs et de faux négatifs. De faux positifs lorsque la signature d'attaque va être trop simpliste. Et en fait, dans ma tête, quand je dis simpliste, je pense mono-événementiel beaucoup. Je pense que c'est insuffisant de faire du pattern matching dans, je ne sais pas, un log snare, du pattern matching dans un paquet ECP, du pattern matching dans ceci ou dans cela. C'est pas assez. Il faut être capable en fait d'intégrer des corrélations entre les événements, et c'est ça. Un des grands trucs qui manque aux IDS aujourd'hui, même si ça commence à venir, même si d'ailleurs Snort en partie avec le plugin qui permet de faire ce genre de choses. Donc si la signature est trop simpliste, eh bien, ça peut conduire à des matchs dans des cas où en fait il n'y a pas d'attaque. C'est un faux positif. Et puis de l'autre côté, là, c'est peut-être un problème qui est inquiétant aussi, c'est que dès lors qu'on a une base de signature d'attaque qu'on cherche à matcher, bah, évidemment si la signature n'est pas dans la base et que l'attaque se présente, on la détectera pas. Donc ça pose le problème de constitution, de maintenance de la base, ça pose le problème de détection des nouvelles attaques, ce qui conduit un certain nombre de gens à penser que les IDS sont toujours en retard de guerre, et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément toujours en retard. Bon. Alors, je disais trop d'alerte. Si on se ramène maintenant à ces notions classiques de faux positif et de faux négatif, qu'est-ce que ça signifie? Les faux positifs, bah, par définition, c'est des alertes en trop. Donc une raison, il y a une attaque, il y a une alerte. Donc ce sont clairement des attaques sur le mur. Les faux négatifs conduisent aussi à la multiplication d'alertes, parce qu'en fait, pour tenir compte des faux négatifs possibles, les gens ont tendance à rajouter des sons. Et en fait, on va se retrouver avec des attaques qui vont être multiplement détectées par des sons divers et variés. Donc on va avoir un phénomène que dans notre jargon on appelle de la redondance d'alerte. Bon. Mais c'est pas tout. En fait, il se trouve que les IDS qu'on connaît aujourd'hui sont relativement mal outillés pour prendre en compte des phénomènes récurrents, hein, du style des vers qui tentent d'accéder X fois à tel exécutable, ce genre de choses. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se reproduire comme ça, toutes les 3 secondes, blablabla. Bla, bla. Bon, alors si on a une signature trop simpliste, ce qui va se passer, c'est que toutes les 3 secondes, on va avoir l'émission d'une alerte. Évidemment, ce dont on a envie, c'est d'avoir une seule alerte qui synthétise tout ça. Bon, donc ce problème de récurrence d'alerte, c'est aussi un problème auquel il va falloir s'intéresser. Bon, et puis enfin, dernier problème qu'on peut mettre en évidence, j'ai déjà évoqué tout à l'heure en disant les alertes, le diagnostic associé aux alertes est pauvre. J'ai dit en commentant ça, les alertes sont de trop fines granularité. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que les IDS aujourd'hui savent très mal corréler les étapes d'une intrusion. Intrusion au sens IETL, je rappelle, suite d'attaque, et que même en fait les IDS savent très difficilement corréler les différentes actions élémentaires d'une même attaque. Et finalement, ça conduit ça, chacune de ces étapes élémentaires, dans le pire des cas, à une alerte correspondante. Donc finalement, toute cette combinaison de causes là conduit à des nombres d'alertes qui sont faramineux et qui noient complètement l'administrateur de sécurité. C'est à ce problème-là qu'on essaye de s'attaquer. Alors, quelle solution? Donc, vous voyez, si je reviens 2 secondes là, on a un problème de faux positif, on a un problème de redondance, on a un problème de récurrence, on a un problème de granularité. Si on retrouve ici ces 4 problèmes, faux positif, redondance, récurrence, granularité, eh bien, nous, il me semble qu'il y a un certain nombre de pistes qui sont intéressantes à suivre pour essayer d'apporter des solutions à ces problèmes. Alors, ces pistes, quelles sont-elles? D'abord, on les sonde concernant les faux positifs. Pour ce qui est de l'approche par scénario, alors, dans la suite de l'exposé, j'ai mis les mots anglais parce qu'il y a des tas de gens qui n'aiment pas les mots français, mais il y a plein de gens qui préfèrent les mots anglais. Je me suis fié aux mots anglais, mais Misius Blas, pour moi, c'est vraiment similaire dans l'approche par scénario. Donc, j'ai dit que le problème principal que je voyais à cette approche, c'était le fait que les outils sont essentiellement mono-événementiels. Donc c'est clair qu'il faut qu'on apporte des mécanismes de corrélation d'événements directement dans les sondes. Est-ce que c'est possible? On l'espère, on travaille pour ça, mais on n'en sait rien. Parce qu'évidemment, il y a des problèmes ici d'explosion du nombre de cas à traiter et donc de temps de traitement. Bon, on est en train de faire un certain nombre de manips dans l'équipe pour essayer de voir si vraiment on arrivera dans la sonde à faire de la corrélation d'événements. Bon, mais c'est une piste. Du côté de l'anomalie BEST, donc l'approche comportementale, je pense qu'il y a une grande piste à suivre, qui a déjà été d'ailleurs suivie par un certain nombre de gens, qui est l'approche orientée politique. C'est-à-dire qu'au lieu de définir la référence par apprentissage, on va, en construire la référence par apprentissage, on va définir la référence sous la forme d'une politique de sécurité. Ensuite, pour ce qui est du point de la redondance, là on voit clairement que si un manager reçoit N fois la même alerte, hein, définition même de la redondance d'alerte, il devrait quand même de synthétiser tout ça et dire j'ai vu cette alerte tant de fois par exemple, j'ai vu cette alerte. Bon, et pour faire ça, évidemment, il faut mettre en place au niveau du manager de la corrélation d'alerte. Au niveau des alertes récurrentes, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est le VR qui va faire 30 accès à commande.exe, par exemple. Eh bien, on va pouvoir mettre en place, soit au niveau du manager, de la corrélation au niveau des 30 alertes qui ont été remontées, soit carrément, si on sait le faire, de la corrélation d'événements au niveau de la sonde. On va mettre une seule alerte en lieu et place des 30 qu'on avait tout à l'heure. Et puis enfin, pour ce qui est de la trop fine granularité des alertes, eh bien on va mettre en place des mécanismes qui là aussi sont des mécanismes de corrélation d'événements ou d'alertes selon l'endroit où on sera capable de le faire, pour par exemple être capable de faire une approche finalement multi-événementielle, soit au niveau événement, soit au niveau alerte. Donc là je suis en train de vous dire corrélation d'événements, approche orientée politique, corrélation d'alerte, c'est les trois grandes pistes qu'on identifie comme étant intéressantes selon nous pour résoudre les problèmes de la détection d'intrusion. Bon, trois axes de travail, et je crois que ces trois axes de travail, ils partagent une idée qui est qu'il faut prendre en compte l'environnement dans lequel baignent les sondes et les managers, de telle sorte qu'on soit capable de faire de la corrélation non plus sur la base du seul contenu des événements, non plus sur la base du seul contenu des alertes, mais aussi sur la base de connaissances additionnelles qu'on va rajouter dans les sondes et dans les managers pour faire cette corrélation. C'est ce que je vais essayer d'illustrer dans toute la suite. Alors, quelles sont les connaissances utiles à une réelle détection efficace selon nous ? Je viens de vous dire, ne pas se limiter au contenu des alertes et des événements, ne pas se limiter aux signatures d'attaque, ça c'est ce qu'on connaît finalement aujourd'hui, et à mon avis, ça a de manière opérationnelle largement prouvé que c'était insuffisant. Bon, donc nous on voit quatre types de connaissances supplémentaires qu'il faut prendre en compte, soit au niveau de la sonde, soit au niveau du manager, et en fait essentiellement au niveau du manager, comme vous le savez. Premièrement, la constitution du système d'information en lui-même. Un certain nombre de gens, et notamment nos partenaires dans ce travail, qui sont des gens de France Télécom, Hervé Debar, pour ceux qui le connaissent, qui parlent de cartographie de site. C'est vrai que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est d'être capable de dire que le système d'information qu'on surveille est construit de telle machine, que ces machines sont connectées en réseau de telle manière, et que cette connexion réseau a telle propriété, et que dans ces machines, il y a tel logiciel, etc. Donc la cartographie complète du site qu'on surveille, c'est quelque chose d'intéressant, parce que derrière, on va pouvoir faire des corrélations intéressantes, comme je vous l'ai montré. Deuxième point, c'est les vulnérabilités. Il y a des bases de vulnérabilité qui existent, par exemple celle du CVE. Eh bien, il faut exploiter au maximum ces bases de vulnérabilité. Il faut être capable de croiser les vulnérabilités avec les éléments du système pour savoir à quoi le système qu'on surveille est vulnérable. Après tout, si on a un système complètement Windows, on n'a rien à foutre de détecter les attaques Linux, c'est réciproquement. Peut-être qu'on a besoin de le faire, mais à ce moment-là, il faut qu'on l'exprime et qu'on choisisse de le faire. Troisième connaissance nécessaire, c'est les outils de sécurité passive qui sont en place. Qu'est-ce qu'on a comme IDS en place ? Qu'est-ce qu'on a comme scanner de vulnérabilité en place ? Où est-ce qu'ils sont placés ? Et comment sont-ils configurés ? Alors pourquoi ça nous intéresse d'avoir cette information-là ? Parce qu'en fait, on veut être capable de dire, imaginez un cas où il y a une attaque qui se potentiellement une attaque qui s'est produite. En tout cas, c'est ce que nous disent deux IDS quand le troisième ne dit rien. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le troisième ne dit rien ? D'ailleurs, ce qu'on se pose, c'est pourquoi il y en a deux qui ont dit quelque chose et puis le troisième ne dit rien. C'est bien la conjonction des termes qui nous intéresse. Bon, ben, pour répondre à cette question-là, il y a besoin d'avoir ces informations-là. Bon, il va falloir les mettre quelque part. Bon, et puis enfin, comme je disais tout à l'heure, le dernier point, il nous apparaît tout à fait essentiel, c'est la politique de sécurité qui est en vigueur sur le site. Alors, je vais vous présenter deux études.
Une première étude qui a été donc réalisée en collaboration avec France Télécom et en fait également avec l'INSA de Rennes, avec Mireille Ducassé. Et en fait, on co-dirige tous les trois un pauvre thésard. Donc ceux qui ont un directeur de thèse, des fois ils ont du mal, mais ceux qui en ont trois, c'est pas triste. Trois directeurs de thèse pour un seul thésard qui travaillent autour d'un modèle de données qui s'appelle M2D2 et qui fédère en fait l'ensemble des informations que je viens de vous présenter. Première chose. Et puis deuxième chose que je vais vous présenter, c'est qu'une approche qui elle est orientée. Alors, la première approche, elle est donnée deux, elle est orientée manager. La deuxième approche, elle est orientée sonde, et elle tient compte non pas de l'ensemble des informations que je viens de vous présenter, mais de simplement la dernière, politique de sécurité. Alors je dis simplement, mais en fait c'est pas si simple que ça, et puis à votre sens, c'est vraiment essentiel. Donc on va démarrer par une donnée deux, puis on parlera ensuite de plus de référence. Bon, donc l'idée de la donnée deux, c'est bien sûr, hein, de dire dans ces plans d'introduction, de réduire le nombre d'alertes et d'améliorer le diagnostic. Pour ça, on va tenir compte des connaissances que je viens de vous présenter. Et en fait, M2D2, c'est un modèle ensembliste qui essaye de définir ces connaissances, de les modéliser d'une certaine façon, pour ensuite permettre l'implémentation dans une base de données, et puis pour permettre surtout la définition de règles de corrélation qui vont exploiter les connaissances qui sont dans la dite base de données. Donc on va mettre en place des mécanismes dits de corrélation d'alerte, exploitant les connaissances de la base, et ces mécanismes de corrélation ne vont pas se limiter à faire de la corrélation entre alertes, on pourra le faire bien sûr, mais ils vont aussi ajouter à ces mécanismes de corrélation d'alerte des mécanismes de corrélation entre les alertes et les connaissances additionnelles qu'on a mis dans le modèle. Actuellement, M2D2, il est dans un état de prototype, hein. Toutes les informations qu'on souhaite y mettre ne sont pas encore mises dedans. Donc actuellement, on a ces quatre types d'informations intégrées dans le modèle, c'est-à-dire la cartographie, pour reprendre la terminologie de l'herbe de Var. Alors, j'ai mis matériel, en fait, c'est un peu un abus de langage. Quelles sont les machines qui existent? Maintenant, on n'a pas d'informations sur le hard, mais c'est des choses qu'on pourrait ajouter à terme. Quels sont les softs qui sont sur ces machines? Et comment ces machines sont interconnectées entre elles? Ensuite, des informations sur les vulnérabilités. Donc, en fait, on a complètement intégré la base ICAT, enfin, 4 CDE, et puis on a rajouté un certain nombre de choses, je vous en parlerai après. Les outils de sécurité passive. Et puis, de l'information sur tout ce qui se passe sur le système. Et alors, là, j'ai mis le mot action effectuée. Qu'est-ce que ça veut dire action effectuée? C'est la vision qu'on a avec les outils qui sont à notre disposition de ce qui se passe sur le système. Et ça, ça veut dire des logs, système et réseau. Et puis des alertes en provenance des IDS, et puis des scans en provenance des scanners de vulnérabilité. Donc, trois types d'informations. Pour autant, ce modèle aujourd'hui, il ne tient pas compte dans sa définition, et évidemment encore moins dans son implémentation, des signatures d'attaque. Donc, on a eu une approche, en fait, pour ceux qui connaissent Hervé, ils ne croient pas trop à l'approche par scénario. Moi, je crois davantage, mais bon, c'est un point sur lequel on n'est pas d'accord. Donc, pour l'instant, on a mis un mouchoir sur notre poche et on n'a pas intégré les scénarios d'attaque dans le modèle. C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir plus tard. Et puis, également, pour l'instant, on n'a pas intégré l'information sur la politique de sécurité en vigueur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra intégrer ultérieurement. Alors, est-ce qu'il y aura un couplage avec la deuxième étude que je vais vous présenter tout à l'heure? C'est un peu tôt pour le dire, mais ça peut être une idée pour quand même. Bref. Quatre types d'informations que je détaille maintenant, une par une. Les composants du système, pour démarrer. Alors, fainéant comme d'habitude, on s'est contenté de reprendre un modèle qui a été proposé par Giovanni Vigna en 96, il était encore en Italie à l'époque, de modélisation de système, de modélisation de réseau, pour être plus précis. Et donc on a repris qu'il a proposé à l'époque, c'est-à-dire la notion d'interface réseau. En fait, le système est essentiellement vu comme un ensemble d'interfaces. Puis ces interfaces, elles sont soit dans des machines, elles sont d'une part dans des machines, et d'autre part reliées entre elles par ce qu'on appelle les liens. Donc la vision qu'on a du système d'information, c'est un ensemble d'interfaces qui est partitionné avec des interfaces qui sont dans des machines, des interfaces qui constituent des lieux. Bon, donc c'est une vision très, très physique finalement de la cartographie du système. À ça, on a rajouté ce qui nous était essentiel pour les mécanismes de corrélation qu'on avait en tête, à savoir les logiciels qui sont utilisés. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle ensembliste, donc on a des ensembles d'interfaces, des ensembles d'ordinateurs, des ensembles de liens, des ensembles de logiciels. Et sur ces ensembles, ont été définis un certain nombre de relations qui sont implantées dans le modèle, du moins une partie est implantée dans le modèle, qui permettent d'obtenir de l'information, comme par exemple ici. Bon, c'est assez évident, une fois qu'on l'a écrit, évidemment, c'est l'adresse IP de toute interface, le nom symbolique d'une machine, le type, le nom, l'éditeur et la version de tout produit, et puis le sous-ensemble des produits présents sur une machine 2. Voilà. Alors on verra après à quoi on utilise tout ça. Donc ça, c'était pour le premier élément du modèle, le système d'information. Deuxième élément du modèle, les vulnérabilités. Alors, j'ai dit tout à l'heure, au moins 7 connues des composants du système, mais en fait, on tient compte de l'ensemble des vulnérabilités, ce qui nous permet de faire des choses du style, tiens, machin m'attaque, mais il exploite une vue de nez qui n'est pas présente chez moi, donc je m'en fous. Donc l'alerte, soit je la mets en bas degré de criticité, soit carrément je la mets à la poubelle. Alors, après, je ne sais pas, on peut voir ce que l'administrateur de sécurité va en faire. Mais en tout cas, on sait comme ça prioriser les alertes, comme ça, et d'ailleurs de plein d'autres manières possibles. Bon, donc je vous ai dit, on utilise de manière privilégiée les références ICAT, donc on a complètement intégré la base ICAT en fait. Et puis on a rajouté un autre ensemble où on a les diverses non possibles de la même vulnérabilité. Donc ça, c'est un problème qui se pose aux gens qui font des IDS, c'est que le même problème est automatisé de 50 façons différentes. Et quand on parle de ce problème-là, ben, on peut parler du coup de 50 manières différentes. Ça, c'est un peu pénible. Donc on a en fait créé une relation d'équivalence qui nous permet de dire que 4 numéros machin, c'est la même chose que c'est pas un cert CC numéro machin. Sur ces deux ensembles, donc, de vulnérabilité ICAT et de vulnérabilité autre, on définit des relations, comme le titre que tout à l'heure pour la topologie. Et ces relations, ce sont des relations qui nous permettent d'obtenir l'ensemble de toutes les références possibles pour une même vulnérabilité, c'est la relation d'équivalence dont je viens de parler, qui nous permettent de savoir si un produit ou un sous-ensemble de produits est sensible à une vulnérabilité donnée. Bon, la notion de sous-ensemble là est importante parce qu'il faut être capable de dire c'est IIS version machin sur Windows version truc qui pose un problème, et IIS version bidule sur un Windows version chouette, ça pose pas de problème. Donc, il faut vraiment avoir une notion de sous-ensemble de produit, même si dans certains cas ce sous-ensemble se réduit en fait à 25 minutes. Ensuite, quel est l'accès qui est requis au système pour exploiter la vulnérabilité? Alors là aussi, toujours aussi feignant, on s'est contenté de reprendre ce qu'avait défini. Hop, ça y est, le trou. Ce qu'avait défini un autre dans un papier, c'est-à-dire le fait qu'il suffise d'avoir un accès distant à la machine, c'est-à-dire qu'on puisse la pinguer, qu'on puisse invoquer un service quelconque sur cette machine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle distant. Le fait qu'il y ait besoin d'avoir un compte sur cette machine, un compte utilisateur sur cette machine. Et puis enfin, dernièrement, le fait qu'il y ait besoin d'un accès physique à la machine. En fait, c'est surtout ces deux premiers types d'attaques qui nous intéressent. Enfin, le prérequis pour l'attaque qui nous intéresse. Bon, et puis finalement, une fois qu'il y a eu une attaque, on a envie de savoir quelles sont les conséquences de cette attaque. Et là, on a défini une fonction qui nous permet de relier chacune des exploitations de vulnérabilité à une conséquence. Et là, pour l'instant, on s'est limité à trois types de conséquences, mais qui nous paraissent suffisants pour le moment, mais on pourrait raffiner ça à l'avenir. Qui sont le déni de service d'une part, le fait qu'on ait exécuté un code arbitraire d'autre part. Alors, en fait, on voit que c'est recouvrant, parce que si vous exécutez shutdown, évidemment, ça fait un petit déni de service. Et la divulgation d'informations. Bon, mais encore une fois, il faudra raffiner ça. Troisième type d'information, les outils de sécurité passive en place. Bon, donc là, c'est assez simple, là aussi, finalement. Hein, l'ensemble des IDS et l'ensemble des scanners. L'ensemble des identifiants d'alerte ou de rapport qui ont été mis par ces IDS ou ces scanners, je ne sais pas si vous avez un snort, là, ça va être l'ensemble des snort ID possibles, puis à quoi ils correspondent. Finalement, c'est la snort, la base de RemoStore qui va nous donner ça. Et puis, toujours de la même manière, sur ces ensembles, un certain nombre de relations qui sont définies, qui vont nous permettre d'avoir la liste des machines qui ont été scannées par un scan de vulnérabilité donnée. La liste des machines ou des interfaces réseau qui sont surveillées par une sonde particulière. Donc ça, c'est ce qu'on baptise dans notre jargon la visibilité topologique d'un IDS. Et puis enfin, la liste des vulnérabilités qui sont exploitées pour une alerte identifiant donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle la visibilité opérationnelle d'un IDS. C'est-à-dire, le fait d'être capable de dire que ce nord configuré de cette façon, il s'est détecté l'exploitation de CAN CVE numéro 9. Par exemple. Bon, et puis, pour terminer, les actions qui sont réalisées sur le système. Et là, on a fait un choix. Je reviens deux secondes en arrière. Comment ça marche? J'arrive. Un truc important que j'ai oublié de préciser ici, c'est la nature récursive de ce schéma fonctionnel. C'est-à-dire que rien n'interdit à un manager, rien n'interdit à un manager de devenir un analyseur pour un manager de niveau supérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel dans tout ce qu'on fait, en fait, et c'est tellement essentiel que j'ai oublié de vous le dire, parce qu'on commence à avoir trop intégré ce truc-là. Bon, donc je viens de vous le dire, je reviens à l'autre transparent.
Quelqu'un sait à quel transparent j'ai été rendu?
15
17 Il y en a combien qui suivent? Ouais, 17.
Donc pour tenir compte de cette récursive du schéma fonctionnel, en fait, on souhaite dire que un événement de tout type, une alerte, finalement, c'est la même chose. Et bon, d'ailleurs, dans certains des travaux qu'on fait, on exprime tout en IDMF, nous. Alors bon, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'un événement en IDMF, des fois, faut tordre un peu pour le faire rentrer dedans. Mais en même temps, ça a plein d'avantages. Bon, bref. Tout est vu au même niveau. Donc on a des ensembles d'événements, et en fait, les événements eux-mêmes se spécialisent en alerte, en rapport de SCAN, en un certain nombre de types d'événements possibles. Alors pour l'instant, on gère IP, TCP, UDP d'une part, les logs web d'autre part, et le système pour terminer. Et donc on a ces trois types d'événements donnés. Bon, et puis ensuite, on définit des relations qui vont modéliser, premièrement, l'encapsulation entre ces événements, parce qu'évidemment, un IP, c'est un petit bout d'une session TCP ou UDP, donc il faut qu'on soit capable de dire que cette tram IP fait partie de telle et telle session. Donc on a une relation pour ça. On a une relation pour évidemment obtenir l'instant temporel de cet événement de toute alerte. Et puis enfin, on a une relation qui va nous donner l'ensemble des événements. Malheureusement, souvent, encore une fois, avec les IDS d'aujourd'hui, ensemble réduit à un simple ton, ensemble d'événements qui a conduit à une alerte. Donc tout ça, bah, ça se termine dans un machin un peu illisible et c'est peut-être là, où en fait on retrouve la notion ici de système, la notion ici de vulnérabilité, la notion ici d'outil de sécurité passive, et puis la notion ici d'événement, avec les différentes informations que je viens de vous donner, et puis les relations qui ont été définies. Alors tout ça, ça a été écrit et publié dans un papier l'année dernière à RED, bon, le modèle est volontairement un peu formel, de telle sorte que quand on parle de A, la sémantique de A est clairement définie dans ce modèle. En même temps, c'est pas forcément, pas besoin forcément de rester à un niveau formel, et l'implémentation qu'on a est faite avec un système de gestion de la souvenir relationnelle et avec des prologues, et ça marche très bien. Bon. Donc ces informations, elles sont dans une base, et alors on ne les fout pas dans une base pour le plaisir de les avoir dans une base, on les met dans une base pour pouvoir les exploiter derrière. Alors l'exploitation qu'on a faite, les formes d'exploitation qu'on a faites aujourd'hui, en fait, on peut les classer de trois manières différentes. Enfin, moi, je les classe de trois manières différentes, je ne suis pas sûr que Benjamin Morin d'une part, Hervé d'autre part, les classe de la même façon, mais pour moi, c'est ma manière de voir les choses. D'abord, tout un ensemble de fonctions qui font ce que j'appelle de la compression, qui en fait vont permettre de lutter contre la redondance et qui vont permettre de soit de générer une nouvelle alerte, soit de... C'est un peu bizarre, on se dit, on a trop d'alertes, on en génère des nouvelles. Bon, ça paraît, c'est un peu bizarre, mais ce qu'il faut voir, c'est que les alertes, les nouvelles qu'on rajoute, hein, ça se traduit des espèces de méta-alertes dans lesquelles ensuite on peut rentrer pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Bon, ça c'est une façon de naviguer dans des niveaux d'alerte de sémantique de plus en plus riches, de moins en moins riches, ça dépend dans quel sens on navigue. Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer que les poubellistes toutes les alertes ont déjà donné naissance à une nouvelle alerte plus riche sémantique. Bon, ça, à la limite, c'est pas de notre sort de décider ça, c'est l'administrateur de sécurité de décider. Ensuite, la forme sans doute, les deux formes qui y arrivent sont sans doute les deux formes les plus intéressantes. La première, c'est ce que j'appelle la déduction, qui va consister à substituer à un ensemble d'alertes satisfaisant une certaine condition, une nouvelle alerte. Et cette condition, elle peut être diverse et variée. Alors bon, ce qu'on fait, c'est que la condition, elle peut porter sur la récurrence. On va dire que si on a une alerte de tel type qui se répète régulièrement tous les x secondes, bien, tout ça, on va l'impacter dans une seule qui dit, j'ai vu n fois cette alerte. Ça permet de lutter contre la récurrence d'alerte. En fait, Benjamin et Hervé ont fait un travail à France Télécom qui sera publié à REP en septembre prochain, où à base d'un système qui s'appelle des chroniques, alors on ne va pas rentrer dans les détails de ce que sont les chroniques aujourd'hui, mais c'est un langage qui permet, qui est particulièrement adapté à l'expression phénomène récurrent. Bon, ils arrivent à faire ce genre de choses. Bon, donc ça c'est un truc qu'on n'a pas fait ici, qui est complètement interne à France Télécom. Bon, et puis la condition ici de substitution de l'onde d'alerte par une nouvelle alerte, elle peut porter aussi sur la présence effective sur le système de vulnérabilité exploitée, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, c'est un moyen de lutter contre finalement des faux positifs, parce qu'il y a peut-être eu tentative d'attaque. Dans certains cas, on peut dire, d'ailleurs, on veut être averti qu'il y a eu des tentatives, hein, ça peut être possible. Mais dans d'autres, au contraire, on va dire, on a déjà du mal avec les attaques qu'on a réussies, alors ne nous embêtez pas avec les tentatives. Ça, c'est un moyen d'éliminer des choses qui, pour certains, sont vues comme des faux positifs. Bon, et puis enfin, la dernière forme d'exploitation de l'ensemble de l'information qui est dans le modèle, c'est une forme de généralisation. Alors, si vous voulez, la déduction, ça se rapproche finalement, mais au niveau des alertes et fait dans le manager, de l'approche par scénario, on voit bien, on a des règles. Simplement, ce n'est pas vraiment des scénarios d'attaque, hein. C'est des scénarios de comportement de son, par exemple, hein, c'est faire des phénomènes récurrents. Ça pourrait être aussi d'ailleurs des scénarios d'attaque, pourquoi pas, mais bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas du tout intégré les scénarios d'attaque dans l'un des deux. Donc ça se rapproche un petit peu de l'approche par scénario, ça se rapproche plus de l'approche comportementale, parce que l'idée qu'on a derrière la tête, là, c'est d'être capable de regrouper ensemble, hein, sous la forme de cluster d'alerte, des alertes qui sont proches, par exemple, je sais pas, vous êtes scanné, N machines de votre réseau sont scannées à partir de la même IP. C'est intéressant de mettre dans un seul cluster d'alerte toutes les alertes qui correspondent à tous ces scans en disant scan vers votre machine depuis cette adresse vers cette adresse avec une adresse source du scan qui est cette IP particulière. Bon, alors c'est qu'un exemple, en fait il y a plein de manières de généraliser et là on a des résultats qui sont actuellement au cours de revue à AXAC et on espère qu'ils vont être publiés à AXAC en décembre prochain. Donc je ne rentre pas dans ces détails, puisque pour l'instant c'est un petit peu tôt pour en parler. Bon, bah finalement, en ce qui concerne les M2D2, pour terminer, et puis en ces temps de troubles sociaux, ce n'est qu'un début et on continue le combat. Donc on a un début d'implémentation, SQL plus Prolog, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a un début d'exploitation des data qui sont dans ce modèle. On tire profit des relations qui existent entre les vulnérabilités et la topologie, entre la topologie et les outils de sécurité, entre les outils de sécurité et les vulnérabilités, et ça nous permet d'exhiber de l'ensemble d'alertes, un ensemble d'alertes plus synthétique, plus intéressant pour l'officier de sécurité, même s'il faut ensuite qu'il rentre à l'intérieur de cette méta-alerte, peut-être pour comprendre précisément ce qui s'est passé. Les perspectives de travail qu'on a, c'est la mise à l'échelle de tout ça. D'abord, le modèle n'est pas encore complet, et puis il a tourné dans des environnements expérimentaux. Par exemple, sur notre réseau ici, c'est passé. On travaille sur cet axe-là, et qu'on évalue les performances de tout ça. Alors, les performances à la fois en termes de temps de traitement, d'occupation, de machin noté, puis de taux de faux positifs, de taux de réduction, de nombre d'alertes, je ne sais pas, tout un tas de critères qui restent à définir et sur lesquels il faut mesurer en fait, les performances de ce qui a été proposé. Là, on n'est pas allé très loin pour l'instant sur cet axe-là, et c'est une perspective importante. Bon, et puis ensuite, on veut intégrer dans le modèle, ce qu'il n'y est pas encore, et je saute, sinon on aura quand même le temps de terminer. Bon, Donc ça, N2D2, c'est une manière dans le manager d'avoir de l'information complémentaire par rapport à ce qui existe dans les alertes ou dans les scénarios d'attaque pour essayer de diminuer le nombre d'alertes, d'une part, et d'enrichir la sémantique des alertes, d'autre part. Le deuxième travail, et donc N2D2, n'intègre pas les scénarios d'attaque, la politique de sécurité. Bon. Deuxième travail, cette fois-ci, on va partir du même constat que tout à l'heure, c'est-à-dire que les approches classiques présentent des défauts qui leur sont totalement intrinsèques, d'une part. Et un deuxième constat, c'est que quand on dit qu'on veut détecter des attaques qui sont des exploitations de vulnérabilité, qui ont pour but de violer la politique, c'est quand même quelque part un peu bizarre de ne pas exprimer ce qu'est la politique en question. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a très peu de travaux qui ont proposé des IDS permettant de gérer la politique de sécurité. Donc là, il y a des travaux, les citations qui sont ici sont des travaux qui sont des IDS systèmes. D'ailleurs, pourquoi tout à l'heure je parle d'IDS systèmes, qui sont ceux de Coelit, ceux de Secar et ceux de Paul Redmond. Et encore, donc c'est pas vraiment du policy-based. Il y a des travaux qui ont été faits à l'ENSTB aussi, qui font du policy-based sur une sonde réseau. Mais bon, très peu de travaux où en fait la politique de sécurité peut être exprimée et où on essaye de détecter des déviations par rapport à cette politique exprimée. Donc finalement, c'est l'objectif qu'on a dans ce travail sur les flux de référence. C'est un travail qui est fait par Jacob Zimmermann, qui est déjà dans l'équipe, qui est ici présent, et qui est co-encadré par Christophe Bidan, que vous connaissez tous maintenant, qui est là. Bon, donc le contexte dans lequel on se place, c'est l'approche système, c'est-à-dire qu'on veut faire une sonde système et pas une sonde réseau, parce que c'est un peu notre créneau. Hein. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le jour où tout sera chiffré, le jour où tout sera au débit, et bien, sniffer le réseau, ça va être difficile. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est sur l'OS qu'il se passe les problèmes, et c'est sur l'OS qu'on doit être. Bon, alors, j'ai pas d'argument scientifique pour justifier ça, mais c'est vraiment un truc auquel je pense. Bon, donc on se place au niveau système, et surtout on travaille des OS classiques, il n'est pas question de changer tous les Windows du monde entier, parce que, enfin, on en rêve évidemment, mais je poserai quelques petits problèmes. Donc on veut un OS classique, Windows ou Linux. OS classique, ça veut dire que la politique de sécurité, elle est appliquée sur l'OS primo par un mécanisme d'authentification, faible et fort, et puis deuxio par du contrôle d'accès, et donc un mécanisme d'autorisation qui, sur les Unix sous Windows, est un système de type discrétionnaire, c'est-à-dire que le propriétaire de la mission fait ce qu'il veut, et ça se traduit par exemple sous Linux par change de mode, cette étoile, tu es mon copain, je te donne tous les droits sur tous mes fichiers, pourquoi pas. Le droit de déléguer des droits appartient au propriétaire d'information. Bon, donc on se place dans ce contexte ultra classique, volontairement. Deuxièmement, il n'est pas question de modifier les applis. Alors, soit parce que d'abord on n'a pas le temps de modifier, même si elles sont ouvertes, et puis deuxièmement, elles sont peut-être souvent fermées, les applications. Bon. Donc on ne touche pas aux applis. Même OS, même appli. Ensuite, on s'intéresse aux propriétés de confidentialité et d'intégrité. Pour le moment, on n'a absolument pas abordé les problèmes de déni de service, qui restent totalement en dehors du cadre de l'étude. Et donc, si quelqu'un veut proposer un IDS pour faire la détection de déni de service, libre à lui, mais en tout cas, cette étude-là n'a pas pour objectif de faire ça. Donc, dans ce contexte-là, notre objectif, c'est de proposer une approche qui va détecter les violations de la politique sans connaissance a priori des scénarios d'attaque. Donc, en ce sens, on se place complètement, on va séparer, Jacob ne serait pas forcément d'accord, mais pour moi, on se place complètement dans la chapelle approche comportementale, mais le comportement de référence, c'est la politique. Et en aucun cas, on va dire quels sont les scénarios qui conduisent à la violation de la politique. Alors, du coup, comment on va faire pour détecter la violation? Par le biais d'un symptôme. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'un symptôme d'attaque, c'est un flux d'informations illégales. Je vais vous montrer quelques exemples après pour étayer cette affirmation. Et que puisque un symptôme d'attaque, c'est un flux d'informations illégales, ben ce qu'il faut faire pour détecter les attaques, c'est du contrôle de flux. Alors, exemple trivial, mais bon, moi j'aime bien les exemples triviaux parce que moi je les comprends. Vous voyez un OS hyper standard, sur lequel vous avez deux utilisateurs U1, U2, 4 fichiers, F1, F2, F3, F4. Les droits d'accès pour ces utilisateurs-là à ces fichiers-là sont ceux qui sont définis dans la matrice d'accès qui est là, RID, R-O-RID, W pour write, bien sûr. Bon. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que sur un OS discrétionnaire où on a une matrice d'accès comme ça, donc sous Linux ou sous Windows, en fait, de facto, l'absence de droit pour un utilisateur donné constitue une interdiction. Si vous n'avez pas le droit de lecture, c'est pour vous, c'est interdit de lire. Donc une absence de droit correspondant à une interdiction, ça signifie par exemple qu'avec cette matrice-là, le flux d'informations du fichier F1 vers le fichier F3 est interdit par la politique de sécurité dont les droits d'accès sont le reflet. Alors, vous voyez que U1 a le droit de lire dans F1 et lire dans F2, mais en aucun cas, U2 de son côté a le droit de lire dans F2 et d'écrire dans F3, mais finalement il n'y a aucun individu là-dedans qui a le droit de lire dans F1 et d'écrire dans F3. Donc là, le flux F1 vers F3, pour nous, est considéré comme étant illégal. Et pourquoi on considère ça comme étant illégal? Parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup d'attaques qui exploitent cette faiblesse du contrôle d'accès discrétionnaire pour fonctionner. Je vais vous montrer deux exemples ensuite. L'idée de base de ces attaques, qu'on appelle entre nous des attaques par délégation, je ne suis pas convaincu que le vocable soit utilisé dans le reste du monde, mais en fait c'est une très bonne appellation que Jacob a sorti un beau jour, c'est que finalement un attaquant va déléguer à quelqu'un d'autre le fait de faire un certain nombre d'actions pour son propre compte. Et en conséquence, dans l'exemple qui est ici, si on prend juste un exemple, U2 va s'arranger pour faire en sorte que U1 copie F1 dans F2. Et à partir de là, il suffira à U2 de venir lire F2, pour le copier par exemple dans F3, et il aura accès à l'information qui initialement était dans F1, alors qu'il n'a pas le droit de lire F1. C'est donc une violation de la politique. Pour autant, les actions élémentaires qui ont été faites, de copie de F1 dans F2 par U1 et de copie de F2 dans F3 par U2 sont toutes les deux légales. Ce qui signifie que du point de vue du mécanisme d'autorisation, du point de vue du contrôle d'accès discrétionnaire, il n'y a pas de viol de la politique. Mais du point de vue du flux qui en résulte, il y a un viol de la politique. D'accord ? Il y a tout là-dedans, même si c'est un exemple trivial. Après, ça se complique un peu parce qu'il faut implémenter et puis c'est chiant. Mais les principes sont là. Alors, on pousse un peu. Les conséquences de ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est que si effectivement il y a un flux F2 vers F3, bien ce flux F2 vers F3, il peut ou non être légal. Il sera légal. Le flux de F2 vers F3, il est légal s'il n'a pas été précédé d'un flux de F1 vers F2. Par contre, il est illégal s'il a été précédé d'un flux de F1 vers F2. Vous voyez qu'il était légal, il est devenu illégal. Mais il peut redevenir légal. Pour qu'il redevienne légal, il suffit qu'il y ait un nouveau flux de F2 vers F3. On revient deux secondes ici. S'il y a un flux de F2 vers F3 qui est fait, ça y est, je me suis manqué de parce que je vous avais dit que je préférais les exemples trivés. À nouveau, c'est flux de F4 vers F2. F4 vers F2. C'est pour ça d'ailleurs que les fichiers F4 ne nous avaient encore servi à rien. Voilà, il nous sert. Donc il y a eu un flux de F1 vers F2. Dès lors, le flux de F2 vers F3 était illégal. Maintenant, il y a un nouveau flux de F4 vers F2. À ce moment-là, le flux de F2 vers F3 redevient légal, merci Christophe, puisque l'information qui était dans F4, de toute façon, était lisible pour nous. D'accord ? Vous voyez qu'il y a une espèce de dynamicité qui rentre en jeu là, avec flux qui sont légaux ou illégaux par rapport à la politique des flux. Ce qu'on veut contrôler, c'est ça. Bon. Deuxième chose que je veux vous dire ici, c'est que quand est-ce qu'on va mettre une alerte maintenant ? Eh bien, on va mettre une alerte uniquement si on constate qu'il y a un flux illégal. En d'autres termes, ici, si on a eu un flux de F1 vers F2, il n'y a aucune raison d'émettre d'alerte, puisque ce flux, il a peut-être été fait par un humain, et ce flux est tout à fait légal. Par contre, si ce flux est suivi par le flux de F2 vers F3, alors il faut émettre une alerte. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on émet l'alerte au moment où il y a violation de la politique, ni avant, ni après. ça, pour nous, c'est un moyen de limiter les faux positifs. Bon, et puis aussi, c'est un moyen de faire du quasi-temps réel, en tout cas de faire de la détection à l'exécution, parce que c'est au moment où le flux se produit qu'on va l'effectuer. Puis on peut même pousser le bouchon un peu plus loin. On peut dire que, vous voyez, on détecte un flux illégal. Finalement, si on sait que le flux est illégal, si on sait que le flux est illégal, ben on pourrait simplement l'empêcher. Et donc, là, on est à la frontière entre la détection d'intrusion et la prévention d'intrusion. Si on se contente d'émettre l'alerte, c'est de la détection. Si on empêche le flux, ben c'est de la prévention. Bon, alors nous, clairement, on se place du côté détection, parce que aussi, on pense que peut-être prévention, vous voyez, si la politique n'est pas bien guidée, des problèmes, ça peut conduire à des interdictions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Mais on pense qu'il vaut mieux détecter. Mais, encore une fois, on est vraiment à la frontière et on peut parler de prévention d'intrusion avec cette approche.
Du coup, je ne sais plus à quel point.
J'ai fini, quoi. Alors, comment ça se fait? Je sabre tout ou je prends un quart d'heure de rap? Où sont les organisateurs? Je discute. On vote. Je sable ?
Non.
Je continue. Bon, alors, vous aurez la poudre avec le quart d'heure. Alors, mais vous êtes arrivé qu'une demi-heure d'avance. Bon. On se fait enviolier comme une étudiante. Alors, un exemple un peu moins trivial que le précédent. Alors, on s'est fait beaucoup attaquer sur cet exemple. Il était déjà dans ma thèse il y a 10 ans. Comme le temps passe. Tout le monde, enfin, on le traite dans tous nos papiers presque, on se fait démolir à chaque fois. On se dit, c'est nul cette attaque, elle marche plus, depuis peu de contrôle, personne ne fait ça. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, on pense que c'est une attaque qui est hyper intéressante, parce que là-dedans, il y a tout, déjà. Et en fait, tout le reste, ça marche pareil. Et elle a le mérite d'être simple et pédagogique. Encore une fois, moi, je vais dire les choses simples. Alors, c'est quoi cette attaque? C'est l'attaque du FPR symbolique, donc peut-être un certain nombre d'entre vous la connaissent. Elle a été pour la première fois publiée par Matt Bishop.
Un autre mérite de cette attaque-là, c'est que l'indétectable.
Oui. Alors, Jacob, c'est lui, ce garçon-là, attention les yeux, qui vient de parler, est effectivement indétectable en termes de contrôle de flux, au même titre que tout à l'heure, hein, j'ai dit que. S'ils me disent des choses comme ça, c'est qu'un quart d'heure, je vais faire. Là, j'avais dit. Pas de violation du mécanisme d'autorisation. Bien, effectivement, cette attaque, on va pouvoir le dire ensuite, ne viole en aucun cas le mécanisme d'autorisation. D'accord ? Et en ce sens, elle est difficilement détectable. En même temps, on peut argumenter aussi et dire qu'elle est détectable par une approche par scénario. Si on sait voir chacune de ces étapes, si on sait corréler tout ça, alors on peut aussi la détecter. Donc ça se discute. Mais bon, elle n'est pas détectable par le biais du mécanisme de contrôle d'accès, en tout cas, ça c'est clair. Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Tout à l'heure, hein, j'ai dit U2 s'arrange pour que U1 fasse la copie de F1 vers F2. Ici, on va dire, l'attaquant s'arrange pour que le démon SPR fasse quelque chose. C'est plus directement une copie, mais ça s'en rapproche. Donc l'idée, c'est que l'attaquant fait une impression symbolique d'un fichier F1. Donc, pour ceux qui maîtrisent moins Unix, l'impression symbolique, c'est je ne copie pas le fichier dans la zone de spool, mais je mets un lien depuis la zone de spool vers le fichier d'imprimé. 10 minutes, bien cher. Quand on fait ça, le démon SPR va vérifier les droits sur F1. F1, c'est un fichier de l'attaquant, donc est un utilisateur légal de la machine, donc il a le droit de le faire, donc tout se passe bien. Entre la vérification des droits et en fait l'impression, l'attaquant va s'arranger. Alors comment il fait, il y a des façons de faire, il y a diverses façons de faire, mais j'ai pas le temps de détailler, donc je ne le ferai pas. Va s'arranger pour que les fins disparaissent et remettent sous la forme d'un lien vers un fichier auquel il a normalement pas le droit d'accéder. Pour l'exemple qui est ici, OTC Shadow. Ensuite, donc là, les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 s'enchaînent dans le temps. Ensuite, ce fichier F1 va être lu par le démon LPR, mais F1 pointe en fait vers ETC Shadow, si bien que c'est ETC Shadow qui va être lu par le démon LPR, et c'est ETC Shadow qui va s'imprimer. L'attaquant va aller récupérer le machin sur l'imprimante, et donc il va accéder à l'information de ETC Shadow, même si c'est sous forme papier, pas sous forme électronique, il va donc quand même accéder à cette information, alors qu'il n'a pas le droit d'accéder à cette information. Rebondissant sur la remarque de Jacob, on peut constater qu'en termes de contrôle d'accès, rien n'a été violé. Tout est normal sur le système, et pourtant c'est une attaque. C'est l'exemple c'est l'exemple archi-classique et le plus simple, selon moi, d'attaque par délégation. Alors, on peut compliquer après un petit peu plus avec des attaques plus récentes, par exemple celle qui a impliqué le démon SSH novembre 2001. Et là, en 10 minutes, il va falloir sauter, je suis désolé. Ceux que ça intéresse, à la pause, ils discutent avec Jacob ou avec moi-même, qui vous expliquera ça. Bon, ça c'est le problème. Ensuite, c'est la manière dont on voyait la politique. Ensuite, c'est l'objectif qu'on avait. Comment on atteint cet objectif? Par un modèle de détection. Quel est ce modèle de détection? Alors, ce modèle de détection, il consiste à considérer d'abord que le système d'exploitation, c'est une collection d'objets, avec une vision de l'objet qui est tout à fait classique, hein, des attributs, des méthodes, la vision la plus classique possible de la notion d'objet. On va parler d'état d'objet pour désigner l'ensemble des valeurs d'attributs d'un objet particulier. Et on va parler de référence, c'est ça qu'a donné le nom au modèle, pour modéliser le fait qu'on a le droit d'invoquer un objet dans un certain état. Tout à l'heure, rappelez-vous, la copie de F2 vers F3, elle n'était possible que s'il n'avait pas été précédé de la copie de F1 vers F2. Donc ça signifie qu'ici, on peut avoir le droit d'invoquer avec la méthode read l'objet F2, dans certains cas, parce qu'il contient une certaine information, et pas d'autres cas, dans d'autres cas, parce qu'il contient une autre information. Donc c'est la référence, c'est quelque chose d'essentiel, qui est un droit, non pas finalement sur un fichier, mais sur le contenu du fichier. D'accord ? Et ce droit, bah, il va, il vient en fonction du contenu du fichier. Donc c'est la grosse différence par rapport au contrôle d'accès classique sur les machines Linux et Windows. Alors c'est une différence d'interprétation, encore une fois, mais ce n'est pas une différence d'implémentation. On ne touche pas à Windows, on ne touche pas à Linux, si ce n'est en rajoutant des petits trucs à nous, mais on ne casse rien de ce qui existe. Bon, ensuite, on va parler d'opération pour désigner une sous-invocation de méthode, et on va parler de domaine pour désigner en fait un ensemble de références, de droits d'accéder à l'information, dont aucune combinaison ne va violer la politique de sécurité. Alors, comme ça, ça paraît peut-être un petit peu abscon. On va voir un exemple tout à l'heure qui, j'espère, va concrétiser un peu tout ça. Et enfin, on arrive à une règle essentielle qu'on appelle la règle d'unicité de domaine, qui dit que, puisque un domaine, c'est un ensemble de références dont aucune combinaison n'engendre de flux illégal, par définition, toute opération qui nécessite des références qui appartiennent à un même domaine est légale. Et donc ça, c'est finalement un invariant qu'on va être capable d'évaluer à chaque appel système, on va voir tout à l'heure dans l'implémentation, à chaque invocation de méthode sur le modèle. Si l'invariant répond que c'est bon, c'est qu'il n'y a pas eu de flux illégal. Et si l'invariant répond que c'est pas bon, on émet une alerte. Bon. Alors voyons un exemple. Donc, je reviens au cas du contrôle d'accès discrétionnaire. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait deux users, quatre fichiers. Là, on a trois utilisateurs. En plus, ils sont dans des groupes. Et puis, il y a six fichiers. Donc, vous allez voir, encore une fois, sur le principe, ça ne reste pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ce qu'on constate sur une machine Unix sur laquelle on vient les pieds, les mains, l'IDS en tout cas, on va trouver ça. Et à partir de ces informations, eh bien finalement, on peut déduire la matrice d'accès qui est à côté. De cette matrice d'accès, on va construire des ensembles de domaines. Vous voyez ici, ce qu'on constate sur la matrice d'accès, c'est qu'on est en train, pour U1, de constater que tout flux de F1, F3, F4, F5, F6 vers soit F4, soit F6 est autorisé. Donc on est capable, comme ça, pour chaque utilisateur, de donner tous les flux possibles pour cet utilisateur. Alors c'est ce qu'on fait utilisateur par utilisateur, sans considérer en route, bien sûr, puisque pour route, tout est autorisé. Bon, donc on a ces trois ensembles de flux autorisés, et on constate ici qu'en fait, l'ensemble de flux autorisés ici est un sous-ensemble de l'ensemble de flux autorisés ici pour nous trois. Si bien que on va construire, donc on va éliminer ce sous-ensemble, parce qu'en fait, si on pourra en discuter à la pause si vous voulez, considérer les sous-ensembles, ça ne sert à rien, parce que la règle d'unicité de domaine marcherait de la même façon. on va construire deux domaines. Le domaine A qui contient le droit d'accéder à F1, F3, F4, F5 et F6 en vide, et le droit d'accéder à F3, F4 et F6 en vrai. Donc ça traduit ces biens-là, et ça, ça traduit par un domaine B ici. Bon. Ensuite, on va à chacun des objets qui étaient définis ici, chacun des fichiers, associer la liste des références qui lui correspondent. Donc là, par exemple, on va dire que F6, il peut être lu écrit dans le domaine A, il peut être lu écrit dans le domaine B. Alors à quoi ça sert tout ce bazar? Ça sert à faire ce genre de choses, à contrôler les flux. Hein, donc on va imaginer deux flux. Un premier flux qui est une copie de F2 dans F6, CP F2 F6, pour les unitiens. Bah, cette copie, elle est légale, puisque on peut, dans le domaine P, faire à la fois, ici, dans le domaine P qui est ici, faire un read sur F2 et un write sur F6. Donc, par définition, cette opération est légale parce qu'elle nécessite des références qui sont dans le même domaine P. C'est la règle d'unicité de domaine qui est respectée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les références qui étaient associées à la source du flux, on va les faire transiter vers la destination du flux. C'est-à-dire que les références, l'équivalent des références pour F2 dans le domaine B, on va les transférer à F6. Donc dans le domaine B, les références qui étaient associées à F2, c'était read-write, on l'a dit au-dessus. Eh bien, pour F6, on va se retrouver avec ces deux références-là, read-write dans le domaine B. Vous voyez qu'on n'a plus les quatre références de tout à l'heure, on n'en a plus que deux. Conséquence de ça, le fait qu'on n'a plus que deux références, c'est que maintenant tout flux fait par U1 et U3, ou U3 en provenance de F6 vers n'importe où deviendra illégal. On rejoint ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Deux minutes. Bon, alors de la même façon, on pourrait montrer que si après on a un flux de F3 vers F6, eh bien, on retombe sur quelque chose différents au niveau des droits d'accès qui ont des boules, on n'a pas le temps de voir ça. Alors on a une implémentation de ce modèle de détection sous Linux. Bon, alors évidemment, si on implémente, l'objet ça ne va pas simplement être le fichier, ça va être aussi des zones de mémoire, ça va être aussi des sockets, ça va être un certain nombre d'objets virtuels qui sont là pour faciliter la vie, ça va être un certain nombre d'appels système générateurs de flux qu'on va contrôler. Et ça va être la règle d'unicité de domaine qui va être calculée, évaluée à chacun de ces appels système. Alors on a fait un certain nombre de tests. Voilà. On a fait un certain nombre de tests sur le serveur mail de l'équipe, et sur un serveur, sur un faux serveur web, en fait un vieux serveur Red Hat 6.2, plein de failles, et Jacob s'est amusé à exploiter un certain nombre de ces failles. Bon, alors c'est des résultats préliminaires, les tests sont encore en cours. Ce qu'on sait, c'est que sur 26 millions d'appels système, à peu près 13 millions sur chacune des machines, eh bien, dans ces 26 millions d'appels système, en fait, certains ont été générés par 50 attaques exploitant 4 vulnérabilités distinctes. Et donc ce qu'on a constaté, bah, c'est que toutes les violations de la politique qui ont été. Toutes les violations effectives de la politique ont été détectées. En fait, 38 de ces attaques sur 50 ont été détectées. On a un certain nombre de faux négatifs, pas d'alerte alors qu'il aurait dû y avoir, sauf qu'on ne peut pas vraiment appeler ça des faux négatifs, vous allez voir. C'est des cas où il y a eu des lectures-écritures via une attaque contre le serveur web, de fichiers qui sont en read-write pour everybody. Bon, vous voyez que finalement, ici, c'est un problème de définition de la politique. On ne dit jamais sur un système Unix ou Windows que la lecture à un fichier donné est possible en local, seulement, mais n'est pas possible à travers le serveur web. Et ce défaut dans la définition de la politique fait qu'évidemment, on ne détecte pas l'attaque, puisqu'elle n'est pas dans la référence. Bon, donc c'est à la limite d'être des faux négatifs, selon nous. Bon, puis enfin, on a quand même des faux positifs. Il y en a trois qui sont liés à quelque chose qu'on ne traite pas dans le modèle, donc c'est normal. Et puis il y en a un, inexpliqué à ce jour, donc nous, ce qu'on a tendance à penser, c'est que sur 26 millions d'appels système, il y en a un qui nous pose vraiment problème, puisqu'on est incapable d'expliquer pourquoi il y a eu une alerte dans ce cas-là. Donc on y travaille, et c'est comme tout à l'heure pour Benjamin, un papier qui est en revue avec ça, qui est comme tout à l'heure pour Benjamin, on espère qu'il va être public. Bon, là, c'est fini, je le crains. Hein. Donc, conclusion, en deux mots, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel donne les systèmes de DPC en intrusion si on veut avoir une chance qui marche dans l'avenir. Question.
J'ai une petite question. Vous m'entendez ? Attendez. Maintenant, on a 3/4 d'heure de retard. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on fasse la pause maintenant, très rapidement. Et les gens qui souhaitent poser des questions à Ludo en profitent pour venir le voir. Je suis vraiment navré, mais si on ne veut pas trop décaler ce soir, ça sera au détriment de la run session. Et c'est quand même dommage pour la run session. Donc, on va essayer de réduire. On a 10 minutes de pause. Les gens qui veulent profiter pour poser des questions à Ludo, qui viennent me voir. Les autres, vous pouvez aller au café. On se retrouve ici dans 10 minutes. Et dans 10 minutes, la présentation de l'URL commence.